Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, tous les soirs, une heure, avec un ou une artiste ce soir, Sol Elias.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter,
péter. Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parler temps qui court.
Marie Richeux avec Sol Elias.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Je ne souhaite à personne de mener cette existence suspendue entre la réalité, la pensée, les dialogues, entre ce que je crois, ce que je dis. Je ne souhaite à personne la cave, la vie en cave. Le schizophrène n'a pas de projet d'avenir, il ne peut pas d'avenir. Il n'a que le présent dégueulasse qui lui colle au basque, pareil à un coureur qui voudrait faire un 100 mètres avec deux boulets aux pieds, les calmants. Voilà pour les mots de Manuel, sous votre plume, Sol Elias. Il s'agit d'un extrait de Tête de tambour, dans lequel l'une de vos narratrices, Soledad, sur le point de donner naissance à un enfant, ouvre les cartons d'archives de son oncle, frère jumeau de sa mère, diagnostiqué schizophrène, et qui laissa, après sa mort, outre de nombreux souvenirs et quelques questions, certains écrits éparses. Un des enjeux de l'écriture de ce récit est de refaire une place pour lui dans la lignée, pour faire de la place à d'autres. Bonsoir à vous, Sol Elias, bienvenue.
Bonsoir.
C'est un texte qui est publié aux éditions Rivage. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par les quelques mots que vous placez en exergue. Des mots de Marguerite Duras qui évoquent la première œuvre comme une trahison familiale. Quand vous nous invitez de cette manière-là dans ce texte, vous nous y invitez d'une manière franche. Comment, selon vous ?
Oui, cette phrase de Marguerite Duras, qu'elle a dit d'ailleurs dans un entretien dans sa maison de Neufle-le-Château, donc c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans ses écrits, dit que toute première œuvre est l'histoire d'une vengeance prise sur sa famille. Et pour moi, c'est vrai que ce livre s'est écrit au prisme de cette phrase. Parce que parler schizophrénie, parler de cette maladie, ce n'est pas seulement parler du sujet atteint de schizophrénie, je crois, mais parler de la structure familiale, qui et peut-être même aussi de la structure sociale, qui va produire, générer aussi la psychose et donc le psychotique. Et dans ce texte, il y a vraiment la question de la famille qui me semble être posée de façon centrale. En tout cas, c'est comme ça que j'y ai pensé. Et on se demande finalement, qui est à l'origine de cette folie et qui est véritablement le fou dans un environnement d'entre-dévoration, où on a l'impression que Manuel Anaël, le personnage principal, fait effort pour devenir fou ou symptomatiser la folie en gestation des autres. Et quand j'ai préparé l'écriture de ce livre, j'ai beaucoup lu en fait un psychiatre américain qui s'appelle Harold Searles, qui a écrit « L'effort pour rendre l'autre fou », qui a beaucoup écrit sur la schizophrénie. Et il pose cette théorie-là, hein, que en fait le schizophrène en devenir pressent la fragilité des autres membres de sa famille, et en particulier de ses plus proches, et notamment de la figure maternelle, et qu'il va quelque part dans une course effrénée prévenir la folie des autres en devenant fou avant tous les autres. Et je crois que voilà, le livre essaie de s'interroger du coup sur le rapport entre psychose, famille, héritage, hérédité.
Mais ça, pas du tout d'un point de vue théorique. Et il n'y a pas de, comment on pourrait dire, de conclusion exacte donnée à cette question, Sol Elias, et on va dire heureusement. Mais ça veut dire que c'est un texte que vous écrivez avec le sentiment de vengeance décrit par Marguerite Duras. C'est un texte vengeur.
C'est un texte qui... Oui, qui, quelque part... Parce que quand on regarde le schizophrène, la personne atteinte de schizophrénie, qui est Manuel Anel dans le texte, il est toujours dit par les autres dans sa maladie. Il est comme une sorte de ventriloque de la nomination commune admise qui lui appose un stigmate et qui ne cesse de le renvoyer à sa prétendue folie. Et il est bâillonné, lui ne peut rien exprimer. Tout ce qu'il exprime, de toute façon, est jugé et calibré à l'aune de cette folie supposée et diagnostiquée. Et donc, oui, quelque part, il prend vengeance. Et c'est ce qui est thématisé dans le livre très fortement. Il le dit dès le premier chapitre que il veut prendre vengeance du paquet de génétique avariée, je cite, qui lui a été légué par ses parents, et de ce fameux, ce qu'il appelle le sous-gène de la psychose. Et comme il est condamné à vivre une vie, comme il le dit lui-même aussi, d'âme morte, d'âme errante, que il sera toujours schizophrène, c'est-à-dire qu'on pourra le stabiliser, on pourra faciliter sa vie avec les psychotropes, etc., mais on ne pourra pas le guérir de sa maladie, dont il pense avoir hérité. Et donc, oui, il va se lancer dans une entreprise de vengeance, c'est-à-dire qu'il va décider de consacrer sa vie et les éclairs de lucidité qu'il a dans cette vie à prendre vengeance de cette famille qu'il a condamnée en un sens à être schizophrène.
Et si on se situe du côté de la littérature, Sol Elias, est-ce qu'il n'y a pas l'idée de la vengeance pour le personnage de Manuel Anael du côté de la prise de parole, à savoir si toute son existence était dite par les autres, notamment au prisme de sa maladie, la vengeance ultime, c'est celle de se dire enfin soi-même. Et c'est ça que vous faites en écrivant le texte.
Oui, tout à fait. C'est reprendre possession de la propre façon qu'on a de se nommer, de se décrire, de se vivre et de raconter de l'intérieur ce qu'il vit. Donc en ce sens, oui, c'est une vengeance parce que il reprend le crachat qui lui est en permanence lancé à la figure pour, comme il le dit d'ailleurs à un moment, le lancer à son tour à la figure teint rose de ses parents.
Mais c'est pas lui qui écrit.
Mais ce n'est pas lui qui écrit et c'est là qu'est tout le subterfuge et peut-être toute la difficulté qu'a représenté l'écriture de ce texte. C'est que a priori, moi-même, je ne suis pas atteinte de schizophrénie. Je me suis inspirée pour écrire ce texte de 44 ans de notes que mon oncle, qui lui était, avait été diagnostiqué, en tout cas schizophrène, m'a laissé. Et m'a laissé comme un héritage, faute de m'avoir laissé une hérédité. Et cet héritage-là, il a fallu bien sûr l'incorporer en quelque sorte, le métaboliser, parce que c'était une sorte de magma de notes écrites de façon complètement éparse, avec des mots dans un sens, dans l'autre, écrits, réécrits, avec des codes couleurs, une linéarité qui n'est pas la linéarité commune, en tout cas quand on écrit la phrase, etc. Et donc il y avait pour moi toute une entreprise de décodage, de ces mots, de ce matériau qu'il avait laissé et qui témoignait de sa maladie, alors sous des formes en plus assez cryptiques, puisque sous forme d'aphorismes, sous forme de petites réflexions, sous forme de formules provocantes parfois, et déchiffrer, défricher ce matériau-là m'a pris pris du temps, j'irais presque un an. Et ensuite, l'incorporer m'a pris également un certain temps, puisqu'il m'a fallu en fait 2 ans avant de vraiment pouvoir me mettre à l'écriture de ce texte, qui lui-même m'a pris 2 ans pour être écrit, donc 4 ans au total. Et c'est vrai que j'avais l'impression d'être une sorte de décodeur, comme il est dit à un moment dans le texte, d'ondes cérébrales brouillées. Et quelque part, il y a une phrase de Mohamed Dib que j'aime beaucoup qui dit « Nous parlons la même langue et nous ne parlons pas la même langue ». Et j'avais le sentiment d'être à l'intersection, à l'intercession de ces deux langues, la langue qu'il avait laissée en héritage, la langue du fou, en un sens, et puis qu'il fallait traduire dans une langue devenue lisible. Donc traduire l'illisible des notes en lisible du livre, traduire le cryptage de ce qui était dit en quelque chose d'un petit peu décrypté. Et ce qui est très curieux, je me suis interrogée après sur ça, mais c'est que le livre, je n'ai pas pu l'écrire en France. C'est une période de ma vie où j'étais en Turquie. J'ai vécu là-bas 2 ans dans le cadre de mon travail. Et il a fallu quelque part que je m'aliène moi-même, en fait, que je sois, que je devienne l'étrangère. Voilà, l'aliéner en un sens, pour pouvoir donner une forme à ce magma que j'avais mis ces 2 années à mettre à jour. Hein, mettre à jour ce gros paquet de choses vivantes, comme dit Claudel.
Un léger vent frais entrebâille la fenêtre. Soledad ne sait pas vraiment pourquoi. Mais ce jour-là, elle ouvre les cartons. Un silence. De ces secondes qui durent des heures. Et sur l'aplat cartonné, le souvenir de la brebis morte à l'entrée du chalet que sa famille avait loué un été quand elle était enfant. Les pattes ouvertes et la panse énorme, gonflées comme de plusieurs agneaux pour avoir mangé une herbe empoisonnée. Si on pouvait être sûr, il faudrait la lui ouvrir la panse pour voir ce qu'il y a dedans. Elle verse le contenu de la première caisse sur le bureau. Mélange de cèdre et d'humidité. Un échantillon des 44 rangs de petits papiers s'étale à présent sous ses yeux. Des masses de feuillets, de supports divers et avariés, passés et repassés au bic noir, bleu, rouge, aux crayons de couleur plus pâle, avec des flèches, des cercles, des astérisques. Des moitiés, quarts, dixièmes, trentièmes de feuilles. Et parfois, au milieu de la masse, de larges A4 avec des phrases au crayon à papier sur des phrases au stylo. Elle-même repassée d'autres couleurs, marquée du sceau d'auréole de café, de traces de doigts, de terre. Et cette écriture qui se réduit au minuscule, jusqu'à l'illisibilité, au fur et à mesure que la phrase avance. Soledad a l'impression d'être au bord d'un gouffre où coexistent des bulles informes, haché par des tranches à pic. Un magma au seuil de son éructation. Elle tente de lire avec son esprit cartésien, habituée au linéaire de la pensée et de la ligne, une page tirée au hasard. Les phrases se brisent en plein élan, inachevées, tronquées, sans verbe, sans suite. Continuées parfois mais au rebord, au bout de la feuille.
Soleilia, c'est un extrait de votre texte « Tête de tambour » lu par Romain de Bec de Lièvre qui, d'une certaine manière, reprend dans, qu'est-ce qu'on pourrait appeler, le récit. Ce que vous disiez précédemment dans une autre langue qui est, je sais pas, une autre forme de récit. Parce qu'il faut quand même en venir à, justement, la traduction que vous avez choisie, puisque c'est le mot que vous utilisiez tout à l'heure. Traduire une partie de ce vécu dans un texte autre, dans une autre lisibilité, c'est un choix qui se situe où pour vous ? C'est pas une fiction, c'est pas un roman, il y a quand même un processus de narration, il y a une construction, il y a la naissance du diagnostic schizophrène apparaît notamment par le choix d'un double narrateur, en tout cas d'un double prénom. C'est une traduction qui se fait comment pour vous dans la littérature ?
Alors c'est un texte, comme vous l'avez rappelé, c'est un texte polyphonique, à trois voix, cette polyphonie. Et bon, je me suis pas dit, je vais parler d'une personne atteinte de schizophrénie, donc je vais faire un texte polyphonique. Hein. Non, pas du tout, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi. C'est un texte qui est arrivé d'une façon singulière, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il s'inspire d'un matériau réel que sont les notes et qui sont effectivement thématisées dans le texte, hein, comme on l'a entendu dans l'extrait que Romain a lu. Et quelque part, la difficulté pour moi, c'était de trouver ma voix au milieu des autres voix. Et notamment au milieu de la voix des notes de cet oncle. Et j'avais vraiment l'impression de tisser un texte. Et d'ailleurs, texte, ça vient de tisser. Et d'incorporer au milieu de ma narration. La narration venait charrier, quelque part, toutes les autres voix, tous les autres points de vue, donc à la fois celui de Manuel, qui tente d'écrire un livre sur cet homme qui s'appelle Anaël, qui est une sorte de double, qui raconte un petit peu sa jeunesse avant qu'il ne soit diagnostiqué schizophrène, et puis un point de vue plus extérieur, qui était celui de cette nièce, Soledad, mais qui est un personnage en fait très éloigné de moi, mais qui bien sûr prenait en charge en tout cas cette extériorité et les questionnements que pouvait susciter un tel héritage et qui est lui-même mis en scène à travers cette histoire de Soledad enceinte. Et donc toute la question de « et si je lui transmettais la mauvaise part ?»« Et si je lui transmettais le mauvais gène ?» etc.
Et qui était déjà une question que s'était posée sa propre mère dans votre livre « Sol Elias ». En fait, à chaque fois que se pose la question de la naissance d'un nouvel enfant dans cette famille, se pose la question de la transmission et de l'idée plus ou moins fondée qu'une part de la folie, avec mille guillemets, se transmettrait en donnant naissance. C'est le début du texte, c'est ça. C'est Soledad et son compagnon qui vont à une échographie et qui soupirent de ne point voir à l'image de malformation.
Oui, oui, tout à fait. Il y a une angoisse très forte autour de ça. L'angoisse de transmettre ce fameux sous-gène de la psychose. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que la génétique seule ne suffit pas, évidemment, à expliquer l'émergence d'une psychose ou voilà, on n'est pas dans une malformation physique par exemple. Et donc en fait, c'est toute la structure familiale et toutes les cryptes et tous les fantômes qui à chaque fois sont rebrassés dans cette question de l'héritage et de la transmission.
Le fait que ce soit une jeune femme qui prenne en charge à la fois les cartons, l'héritage et aussi les questions laissées en suspens par les autres, pour vous, c'est le signe de quoi, Sol Elias? C'est le fait que c'est une sorte de figure comme ça de la jeunesse, du présent, du futur?
Bon, je crois qu'il y a d'abord quelque chose de très basique qui est que, quand même, ça s'inspire d'une situation réelle. Qui est que moi-même, je suis l'oncle de cet homme schizophrène.
Vous êtes la nièce.
Pardon, la nièce. Lapsus, j'espère, non révélateur. La nièce de cet oncle schizophrène. Et donc, y a déjà bon, quelque chose de l'ordre de thématiser ce regard qui était le mien, en fait, dans le texte, à travers ce personnage de Soledad. Mais oui, bien sûr, c'est l'interrogation du présent sur le passé dont nous héritons.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et aussi peut-être la question du regard de la petite fille qui était Soledad d'enfant, qui est aussi mise en scène dans le texte, qui a une relation que l'on pourrait décrire comment à l'égard de cet oncle diagnostiqué schizophrène?
Oui, alors c'est... Bon, des retours critiques que je peux en avoir, parce qu'évidemment on n'est jamais lecteur de son texte, hein, mais le roman est quand même... assez éprouvant, assez noir, il laisse assez peu d'espoir ou de raies de lumière, mais il y en a quand même quelques-unes, et L'une d'elles, c'est évidemment la relation de cet oncle à sa nièce, qui est à peu près la seule relation préservée dans cette famille, dans ce qui est appelé dans le texte l'enclos familial. Et c'est la seule relation qui donne un petit peu espoir, parce qu'elle est singulière. Il ne touche pas à cet enfant, en un sens. Il ne veut pas la salir. Il veut la préserver. Et c'est le seul moment où il exprime sa pleine humanité avec elle. Et on comprend qu'il l'exprime avec elle parce que l'enfant ne porte pas de regard de jugement sur lui. C'est-à-dire que l'enfant ne le regarde pas comme différent, comme fou, comme handicapé, comme etc. Et donc ne le renvoie pas à cette mauvaise part, justement.
Et il a fallu pour vous, pour retrouver ça, puiser dans vos propres souvenirs. L'écriture a été une manière de se remémorer votre propre rapport à cet oncle-là.
Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que, et d'ailleurs c'est aussi le cas dans le texte, j'ai grandi auprès de cet oncle, enfin en tout cas il habitait en face de chez mes parents, et c'est quelqu'un avec qui je passais beaucoup de temps, et dont j'ai compris que très tardivement en fait, la maladie. Alors il avait plein de singularités, il était toujours entouré d'un nuage de fumée, il ne travaillait pas, il n'avait personne dans sa vie, il passait sa vie en pyjama ou en peignoir, il avait tout un univers littéraire, musical, cinématographique, etc. Et pour moi il était d'ailleurs une façon d'échapper au réel, d'échapper à ma famille, beaucoup plus normée par ailleurs. Il était l'imaginaire, le rêve, et on avait des échanges très, voilà, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour qui pouvaient s'échanger. Et ça, j'ai quand même voulu, oui, le restituer dans le texte.
Parce que c'est une autre transmission, c'est-à-dire qu'elle vient... comme ça, contredire l'idée que la transmission venant de lui ou venant d'une lignée, ce fameux sous-gène, serait forcément négative et malheureuse. En fait, il y a aussi autre chose qui se transmet dans ce livre-là, manifestement.
Oui, tout à fait. On connaît le proverbe, hein, à toute chose malheur est bon, ou parfois c'est où du chaos va naître l'étoile dansante. Enfin, cette idée que, effectivement, il y a des petits éclats de lumière, il y a des belles choses qui peuvent se transmettre. Et bon, dans le livre, c'est vrai que c'est quand même dans la relation à cette nièce que c'est représenté. Même si c'est possible dans l'enfance, mais on se rend compte que quand elle a grandi, c'est quelque chose qu'elle a beaucoup plus de mal à assumer et à vivre.
Pour moi, l'écriture, c'est vraiment le lieu de la vie. D'ailleurs, le lieu, il ne peut y avoir que... un mouvement, en tout cas, parce que pour la vie, bon, on peut la définir pendant des heures et de différentes manières. Mais pour moi, ça reste quand même fondamentalement un mouvement. Et l'écriture est aussi un mouvement. L'écriture, c'est lutte contre ce qui est figé, statique, oublié. Et là, en ce qui concerne Jacob, moi, j'ai ressenti qu'il fallait que je donne à ce jeune garçon qui n'a laissé aucune trace, qui est mort sans avoir rien accompli, sans avoir eu d'enfant, sans avoir travaillé, sans avoir fait de ses mains quelque chose qui aurait pu lui survivre, j'ai senti qu'avec les mots, je pouvais, je devais lui donner une existence. Et surtout, pour moi, de manière peut-être là aussi égoïste, l'écriture est d'abord une expérience personnelle, une sorte d'expérience existentielle où mon existence sert peut-être de chambre d'écho à autre chose.
C'est la voix de Valérie Zenati au micro de Laura Adler dans L'Heure Bleue sur France Inter en 2019. Tout récemment, Sol Elias, peut-être pour poursuivre sur ce qu'on disait à propos de votre texte Tête de tambour et l'idée d'une existence éclairée par une autre. Quel était votre rapport, pour commencer, avec l'écriture avant ce premier texte-là?
C'est un rapport complexe. J'ai tenté de fuir le fait de devenir écrivain de multiples façons. C'était quelque chose que je ne voulais pas assumer. Donc voilà, j'avais par exemple commencé une thèse qui était pour moi une bonne façon de m'en éloigner, etc. Pour finalement en fait l'arrêter et y revenir. Je tentais d'avoir des occupations très prenantes, etc. Mais c'est quelque chose qui en fait ne cessait de revenir. Et voilà, si répéter, c'est signifier. Cette répétition a fini par...
Vous dire que vous fuyiez l'endroit où il fallait être, quoi.
Exactement. Voilà, je crois que je ne voulais pas assumer cet acte-là. Je ne voulais pas assumer cette existence-là. L'existence de l'écrivain qui est... Parce que pour moi, écrire est quelque chose de difficile. Mais aussi peut-être parce que je savais que si c'était quelque chose qui était très présent en moi, en fait, j'écrivais depuis toujours et c'était un désir qui était intimement là, intimement ancré et dans le fond, aujourd'hui je l'assume complètement et j'aimerais en faire ma vie. Enfin, j'en ferai ma vie, quoi qu'il en soit. C'est un arrachement et c'était effectivement, donc je reprends mon idée, difficile parce que il fallait sans doute commencer par ce premier texte. En fait, aucun autre texte ne pouvait être écrit tant que je n'avais pas écrit ce texte-là, qui était quelque part la dette que je devais à cet oncle de par son héritage et aussi du coup, et on revient à la citation de Duras, la dette et la revanche que je devais prendre par rapport justement à ce gros paquet familial qui m'était donné et qu'on me demandait de gérer d'une façon ou d'une autre.
Et vous aviez raison de le croire, une fois ce texte posé, que quelque chose d'autre pouvait s'ouvrir, seul Elias ?
Oui, complètement. Ça a été très dur de le commencer, très dur de le finir. Mais il fallait représenter ça, il fallait le rendre extérieur à soi. Et c'est vrai que d'abord il fallait donner une voix à celui qui n'avait jamais pu en avoir. Hein. Neruda dit que dans ses poèmes il veut donner une voix aux sans voix, j'aime beaucoup sa formule. C'est vraiment cette idée-là, refaire parler ceux que l'on a privés de leur humanité ou de la possibilité de se raconter. Donc pour moi, c'était un acte fort qu'il s'agissait de poser, presque un acte engagé, je dirais. Et par ailleurs, c'était une façon, oui, de s'émanciper de ça et donc de pouvoir écrire les autres textes à venir. Mais là, je suis en train d'en écrire un deuxième et qui n'est pas du tout sur ce sujet-là, mais qui est traversé en fait par ce même questionnement.
Avec l'idée qu'il y a une responsabilité qui va avec. C'est-à-dire que le premier projet de livre étant lié à la nécessité de faire exister quelqu'un à partir de traces, ça veut dire que c'est aussi très lié avec la responsabilité de faire exister quelqu'un.
Oui, bien sûr. Je crois que c'est un engagement qu'on prend d'écrire. Enfin, c'est pas anodin de publier, de se rendre public, littéralement, et de rendre public quelque chose. Je crois que c'est quand même on donne à voir, on donne à entendre une parole, une existence, on lui restitue une contenance et par rapport à ce sujet de la personne schizophrène, c'est d'autant plus important qu'il est très difficile à la personne atteinte de schizophrénie de se raconter. Pourquoi ? Parce que il y a des multiplicités, des multitudes d'instants, d'éléments, etc., comme ceux que j'ai pu collecter à travers ces notes, mais qui n'ont pas nécessairement de lien entre eux. Il y a une difficulté à lier les choses entre elles et à leur donner une véritable dimension narrative. Et donc, le faire, quelque part, c'était aussi redonner forme et redonner sens, voilà, à travers, plus que le récit, la narration de cette existence.
Et en même temps, sans complètement gommer l'aspect fragmentaire des choses, parce que d'une part, vous l'écrivez, que c'est une impossible unité, et d'autre part, dans la forme, votre texte, non seulement il est scandé comme ça par trois voix différentes, mais aussi à l'intérieur des voix, par des petites astérisques qui marquent qu'il y a des fois où c'est pas possible de faire unité. Ou alors, ce serait, je sais pas, peut-être trahir le matériau réel initial, Soleilias.
Oui, bien sûr. C'est un texte qui est fragmentaire, mais qui quand même tient sa ligne. Je, je crois, enfin, qui est lisible. C'est-à-dire que on est peut-être dans une forme de poétique, mais pas de poème. Enfin, on est dans une narration. Ça, pour moi, c'était très important.
Et vous y teniez pourquoi ?
Justement pour ça, pour rendre quelque chose qui, a priori, n'est pas représentable, qui, a priori, n'est pas lisible, lisible, représentable, visible, compréhensible.
I believe they have got what they came for. I believed our peril was done. On the eve of the last of the great wars, after three we had narrowly won. But fourth, it was carelessly done. Saw his ship in its whistling ascension as they launched from the capital seat. Swear I saw a mistake when the clouds draped like a flag across the backs of the fleet. For the 100 first light born elite. As the day is long, began to mean only right here, to mean inches and miles but not years. Before space had a taste of its limits and then you saw the coordinate awoke. Leaving time just another continent, bearing weight, taking fire, trading smokes in the war between us and our ghosts. But I saw the bearing straight in the golden gate, in silent suspension of the golden age. We can barely tell if I got it well, where your eye has been unseen, pristine, unfelt. Chapeau, those telescope runes. It was there that I called to my true love, who was pale as millennial moons. Honey, where did you come by that wound? When I woke, it was gone and the war had begun.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Sol Elias.
Le docteur avait dit « Méfiez-vous des visions déguisées en malaise vagal ». Il était en train de faire un malaise halluciné. Les papiers tournaient, seuls. L'ombre pour les ramasser avait disparu. Il se collait d'eux-mêmes à son thorax, s'agglomérant comme des mouches sur un strip de miel. L'hématome lui semblait énorme, de la taille d'un pamplemousse. Il gonflait. Manuel n'osait plus fixer les papiers de peur qu'il n'ait des yeux, car ils étaient en train de se transformer en mouches. Des mouches qui grossissaient. Leurs pattes surtout. Des corps minuscules aux pattes disproportionnées. Alors, c'est à ce moment-là qu'il se souvint des crabes bleus du golfe du Mexique, qu'il avait vue dans un documentaire. Il se remémora l'image dans l'écran. L'océan étale, remué dans ses fonds. La plage de sable gris et dense, comme des boulettes de gravier. Et la cohorte de crabes au centre, qui avance vers l'eau. Ils sont bien une centaine, les crabes, qui viennent juste de faire leur mue. Ils marchent comme une seule masse, sous le soleil blanc du golfe. Leur carapace encore molle. Et plus ils avancent, plus ils sont nombreux. Des centaines subdivisées en dizaines qui se multiplient chacune par 10, jusqu'à devenir des milliers et envahir tout le paysage. Des milliers de crabes qui avancent vers la mer en rang si serré qu'ils cachent le gris du sable. La plage n'est plus qu'une myriade de crabes bleus. Manuel cligna des yeux. Il palpa sa poitrine. Ses oreilles bombillèrent à lui en crever les tympans. C'était le bruit de la vague. Un rouleau d'eau gigantesque qui balait la jetée. Il a avalé les crabes. Tout a disparu.
Salélia, c'est un extrait de Tête de tambour dans la voix de Romain Daubec de Lièvre et c'est une plongée dans les visions, dans les hallucinations, dans les malaises hallucinés du personnage Manuel Anael, ce personnage d'oncle diagnostiqué schizophrène. On imagine aussi que dans l'écriture, c'est une plongée singulière que de produire ces images-là, que d'aller à la recherche du langage pour dire ces images-là.
Oui, bien sûr, c'est le langage du corps. C'est quelque chose qui, pour moi, passait beaucoup dans une plongée dans mon propre corps et dans ma propre perception. Parler de la schizophrénie, c'était pas seulement raconter des actions, des échanges, raconter les relations troublées, errante, etc., aux autres, c'était aussi parler de cette relation troublée à son propre corps. Il y a quelque chose qui revenait souvent hein, dans les notes que mon oncle a laissées. C'était bien sûr la question des hallucinations et notamment non pas seulement des hallucinations auditives, visuelles. Bon, bien sûr, on associe hallucinations et schizophrénie très communément, mais ce qui pour moi était aussi une découverte, c'était les hallucinations que le corps produisait lui-même, c'est-à-dire que votre propre corps se dérobe à vous-même. Ça, pour moi, c'était terrible à comprendre. De comprendre, par exemple, qu'il avait la sensation que ses poumons étaient déplacés et que du dos, il passait à ses hanches et qu'il avait l'impression que ce n'était plus sa poitrine qui respirait, mais ses hanches qui respiraient. Ou qu'il avait l'impression que tout d'un coup, elles étaient remplies de ce qu'il appelle les petits poissons. Et ces petits poissons qui grouillent et qui l'envahissent. Et ces choses contre lesquelles il ne peut rien faire, si ce n'est attendre que la crise d'hallucination passe.
Quand vous dites comprendre, Soleilia, ça veut dire que c'était comprendre à la lecture ou c'était comprendre à la digestion et à la traduction, donc à l'écriture. En fait, vous comprenez quand? Puisque là, si on est sur le terrain réel, vous ne pouviez pas comprendre quand cet homme était vivant, que vous étiez enfant ou adolescente. C'était probablement loin de votre compréhension.
Non, bien sûr. C'est quelque chose qu'on comprend, je crois, avec la distance du temps. Quand on est trop collé aux choses, évidemment, on n'arrive pas à les lire, à voir le panorama d'ensemble. Et il faut presque le métaboliser. C'est-à-dire que se coucher avec ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient d'imaginer de ce qui nous a été donné à lire, se lever avec ce qu'on vient de lire, aller acheter son pain avec ce sentiment-là, cette sensation-là qui vient littéralement nous travailler, et nous travailler tant qu'elle devient comme une pâte qui monte, qui monte, qui monte, et qu'à un moment, il faut pétrir dans l'écriture.
Et en même temps, on utilise le mot comprendre, qui est un mot de la tête.
Oui, mais c'est comprendre au sens d'incorporer, littéralement. Enfin, c'est vraiment pour moi au sens presque étymologique de prendre avec soi. De prendre à l'intérieur de soi. Parce que ce qui était dur, bien sûr, c'est que quand on n'a pas soi-même été victime de ces hallucinations ou de ces troubles, c'était comment les rendre au plus juste. Comment faire pour que cela sonne juste, pour que cela sonne vrai. Et donc il y avait tout un travail effectivement de métabolisation presque jusqu'à se rendre malade soi-même en un sens, pour pouvoir dire au plus près cette expérience-là. Mais pour moi c'était bien plus restituer cette expérience de la schizophrénie dans tous ses recoins, dans tout ce qu'elle vient perturber du rapport à soi et du rapport à l'autre, que de produire un essai théorique. Sinon il faut écrire un essai de psychiatrie, enfin, ou de, enfin, j'en sais rien, de philo. Enfin, ce n'était bien sûr pas du tout le but de ce texte.
Puisque vous parlez des rapports troublés avec les autres, comment est-ce que vous parleriez de la relation qu'il entretient avec sa sœur jumelle et ce personnage-là, de la, oui, qui n'est pas Bonnie, sa mère, qui n'est pas Soledad, sa nièce, qui est ce que parfois vous écrivez comme le double du miroir.
Exactement. Il le dit, il dit qu'elle est sa jumelle au miroir, et c'est une relation extrêmement complexe. Bon, c'est une relation, je pense qu'on pourrait qualifier de toxique, hein, à la fois de ce miroir qui, il le dit à un moment, renvoie la bonne image à l'endroit, parce que elle n'est pas atteinte de schizophrénie, parce que elle peut vivre la vie de tout le monde, ce que lui, le schizo-frère, le schizo-obscène, le schizoïde, l'humanoïde, comme il se définit lui-même, ne pourra jamais vivre. Et bien sûr que du coup, il y a à la fois une forme de fusion qui est due aussi à leur gémellité, de confusion presque parfois, et en même temps de haine, de rejet, d'envie de se blesser, de se faire mal, parce que ce qu'elle lui renvoie le renvoie tellement au propre échec de sa vie, à ce qu'il considérait être une vie pour rien, que c'est insupportable.
De même que, d'une certaine manière, elle peut se situer du côté de la norme et que c'est aussi l'un des endroits où on passe son temps à dire qu'il n'est pas, que ce soit du point de vue familial ou du point de vue de l'institution qui dit cet état malade, qui le dit de manière aussi administrative, par exemple.
Tout à fait, oui.
Et vous reproduisez, Sol Elias, ces mots-là. Comment est-ce que votre texte va aussi dans ces recoins que sont l'hôpital psychiatrique, le diagnostic, l'institution, le traitement, les psychotropes, les médicaments, aussi ces choses très concrètes de la manière dont la maladie se vit. Plus du tout du côté du ressenti corporel et des hallucinations.
Alors déjà, juste pour revenir sur cette question de la norme et de la psychiatrie et la norme, je crois que c'est une question très importante. Hein. Évidemment, il le dit d'ailleurs à un moment, on ne cesse de vouloir mettre des étiquettes sur le malade, de déceler des symptômes et d'en déduire des essences, presque. D'établir toute une série de nomenclatures, nomenclatures elles-mêmes qui d'ailleurs parfois sont contestables, parce que elles sont aussi quand même dictées par un consensus social, des normes sociétales, etc. Voilà, je sais pas, jusqu'en 81, l'homosexualité était considérée comme une maladie, chose qui nous paraît complètement absurde aujourd'hui, mais pourtant c'était bien le cas, ça faisait partie des listes des maladies psychiatriques. Et de la même façon, cette histoire de schizophrénie, qui d'ailleurs dans le texte n'arrive pas vraiment à se dire, le médecin leur dit c'est de la neurasthénie, et puis c'est un profil psychotique, et les parents n'arrivent même pas à intégrer les termes, n'arrivent même pas à comprendre la technicité de ces termes et de ce qu'ils recouvrent. Peut-être parce que c'est trop violent, peut-être parce que c'est trop énorme, en un sens. Le personnage, Manuel Anael, refuse cet étiquetage-là. Il le refuse jusqu'au moment où il comprend qu'il ne pourra pas faire autrement que de coexister avec, et c'est là qu'il décide de devenir ce qu'il appelle le plus grand malade du monde. C'est-à-dire, puisqu'on l'a décrété fou, puisque personne ne veut rien faire avec ça, eh bien, enfin ne peut rien faire avec ça, eh bien, il va rendre tout le monde fou et prendre toute la place et justifier ainsi son existence.
Avec un moi, M-O-A, accent circonflexe très 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 long, et qui prend aussi de la place, sur la page, Sol Elias. C'est dire aussi que ce personnage d'oncle, s'il se fait une place dans votre livre, s'il fallait par ce livre-là lui donner une place, ça ne veut pas dire qu'il n'en avait pas du tout. Disons qu'il passe une place comme ça, où il prend beaucoup de place par sa maladie et son état de maladie, à une autre place qui serait peut-être là. Une forme d'existence plus singulière dans votre livre.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs lui-même parlé du parcours de l'idiot qui avait traversé le demi-siècle comme une météorite. Et je trouve cette formule pleine d'humour noir et en même temps assez parlante. Et c'était ce parcours de l'idiot jusqu'à... pour reprendre sa formule, jusqu'à sa déflagration finale, le récit de cette implosion intérieure que je voulais raconter. Et bien sûr que si le livre raconte la trajectoire d'une personne qui a été diagnostiquée schizophrène, il ne prétend pas raconter, essentialiser évidemment la schizophrénie et parler pour toutes les personnes qui sont atteintes de troubles psychotiques.
Puisque la quatrième de couverture dit combien la schizophrénie est un thème rare en littérature, d'une part, ça j'avoue que je ne sais pas si c'est vrai, et d'autre part, ça laisse penser que c'est un récit pour tous les récits qui n'ont pas lieu. C'est quelque chose que vous vivez de cette manière-là ou c'est une quatrième de couverture? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous le vivez avec la responsabilité d'écrire une parole pour les personnes schizophrènes quand elle se ferait rare en littérature?
Non, je ne prétends pas tenir un discours sur la schizophrénie, parce que ce serait bien présomptueux de ma part. Je prétends effectivement, comme vous l'avez dit, je pense très justement, raconter une existence singulière d'un homme qui s'avère être schizophrène dans la famille qui est la sienne, dans le fameux enclos familial qui est le sien. Cependant, pour avoir fait beaucoup de recherches avant d'écrire ce livre, je dois dire que j'ai été moi-même très surprise de voir que c'était un thème qui était quand même assez représenté au cinéma, mais qu'il l'était en fait assez peu dans la forme littéraire. Mais je pense justement, parce que c'est très dur de raconter cette... enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme quelque chose quand même de difficile, de raconter cette maladie sans tomber dans les clichés éculés dont elle fait l'objet, et dont elle fait d'ailleurs le plus souvent l'objet au cinéma. Rares sont les films qui arrivent à représenter... justement, enfin, je trouve avec en tout cas un peu de justesse cette question de la folie.
Autre chose que le double et en effet les voix et Dr Jekyll et Mr Hyde, quoi.
Mais de la représenter comme une expérience totale, comme vous le disiez, à la fois de l'esprit, du corps, de la relation à soi, de la relation à l'autre, au monde, et puis voilà, comme une sorte de trajectoire.
Je suis autodidacte. J'ai toujours peint, c'est-à-dire. Toute mon enfance, par tous mes livres, des cahiers étaient remplis de dessins un peu genre indiens, remplis des pages avec dessins très complexes, que je ne considérais même pas des dessins, mais qui me faisaient mon plaisir. Et je n'ai pas pensé à être artiste. Je voulais faire de la mise en scène, et j'étais dans une école, ici je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, j'avais 20 ans. Je suis retournée en France et je voulais être metteur en scène. Je me disputais avec tous les gens de l'école parce que je n'avais pas les mêmes idées, etc., etc. Bon, après ça, 22 ans, j'ai fait une dépression nerveuse très grande. Et là, on me fait beaucoup d'électrochocs, on me fait l'insuline. Et là, j'avais une mémoire exceptionnelle, mais ça m'a vraiment bousillé la mémoire. Je reconnaissais plus les gens dans la rue, etc. Mais je me suis guérie beaucoup plus vite que les gens pensaient. C'était parce que j'ai commencé à peindre tout, là. Tous mes problèmes, mes relations avec les gens, tout. Voilà. C'était tellement clair pour moi que c'était ça que je devais faire, que je devais oublier la mise en scène et que je devais que faire ça. Alors, après 6 semaines, c'était pas très long en clinique. Je me suis sortie, ils ont été très étonnés de me voir si rapidement bien, parce que j'étais un cas, je volais tous les couteaux, les ciseaux, j'avais des sacs pleins d'arsenal, j'étais un peu bizarre, quoi. Et puis je me suis très très vite remis, mais c'est pas très étonnant qu'un jour après cette violence ait ressurgi dans mes tableaux.
C'est la voix de l'artiste Nikite Saint-Phalle en 1991 dans les entretiens à voix nue diffusés sur France Culture, Sol Elias. Alors il n'y a pas de pont à faire clairement entre l'expérience de la dépression, de l'internement et celle de la schizophrénie, sinon ce qu'on appelle la décompensation et puis la souffrance psychique. Elle fait surtout un pont avec sa propre production artistique. Et ce qui est assez intéressant et frappant dans votre livre, c'est que cet oncle-là, il est aussi montré comme une personne qui invente, comme une personne qui crée. Finalement, ces carnets dont parle Nikite Saint-Phalle à l'instant, on les voit aussi, alors c'est peut-être pas du tout le cas, mais on les voit aussi comme de possibles œuvres, oui, des œuvres de l'esprit, mais aussi des œuvres presque plastiques.
Oui, complètement. Le personnage, d'ailleurs, est en fait un écrivain raté. Raté au sens où il n'arrive pas, en fait, à écrire ce fameux livre qu'il voudrait écrire et qui s'inspire du récit de sa jeunesse, donc la jeunesse de ce double, ce fameux Anel, qu'on retrouve dans le texte. Et donc, oui, il s'imagine comme créatif, créateur. C'est une façon pour lui aussi de contester cette fameuse norme dont on parlait tout à l'heure, et notamment ce qu'il considère comme être la petite bourgeoisie qu'incarne ses parents, la petite vie matérielle qu'ils veulent lui imposer, etc. Quand lui se rêve, s'imagine, parce qu'il est aussi un peu mythomane, ça va avec, comme un fils de famille, un grand écrivain, à un moment il veut faire du théâtre, etc. etc. L'art est pour lui effectivement une façon de justifier sa singularité. Et effectivement, quand on réfléchit à l'histoire de l'art et de la littérature, nombreux sont quand même les personnages écrivains, par exemple, qui étaient atteints de troubles qu'aujourd'hui on pourrait qualifier, que la psychiatrie d'aujourd'hui qualifierait de psychotiques. Baudelaire, qui était apparemment bipolaire, qu'on pense à Artaud, qui était effectivement schizophrène, etc. Donc, et donc ça n'est pas si fou, c'est le cas de le dire, de s'imaginer comme ça. Par ailleurs, pour ce qu'il a réellement laissé, et qui sont ces fameux carnets dont parle Nikite Saint-Phalle, bien sûr qu'il y a une dimension esthétique, c'est presque de l'art brut. Et qu'on se souvienne d'ailleurs des surréalistes qui se nourrissaient à ce fameux art des fous et qui allaient dans les asiles puiser aussi la matière de ce qui ferait leur production surréaliste. Et effectivement, dans ces fameuses notes qu'il a pu laisser, on peut très clairement les voir comme des œuvres esthétiques.
On se suicide pour échapper à la pression de la vie, pour se soustraire aux exigences minuscules et aux parades familiales de l'existence. Parce que ça fout sacrément la pression, la vie. Il avait écrit ça, en gros, sur un post-it orange, au-dessus du bureau à petit papier, et des packs de soda entassés, collés sur la grande glace dans laquelle il se regardait tous les matins. Il en était à 6 bouteilles de coca par jour, 4 paquets de gauloises, 5 plaques de chocolat. Les années passant, de jeune et fringant, il était devenu ce corps méconnaissable et avachi de quadragénaire grossi par la bouffe anarchique, de boulimique schizo-addict. Il était devenu un ventre d'obèse surtout. Il se voyait encadré par deux pattes folles et une tête fêlée. Son jogging gris cédait sur les coutures. Il le cachait maintenant avec un peignoir éponge blanc XXL qui avait noirci sur les manches et à certains endroits. Un peignoir de clochard. Il s'appelait à présent, dans ses notes, Bibendum. Un Bibendum à la barbe de 10 jours et au ventre de 6 mois. Un étrange mélange d'obscénité qu'il portait à bras le corps. C'était le coca surtout qui lui gonflait la bedaine et lui avariait le peu de dents qui lui restait. Le sucre. Il en était arrivé à un point où il arrachait lui-même les derniers chicots quand il les sentait tournicoter sur leur pivot et ne plus tenir qu'à un fil de gencive. « C'est mes dents de coca, » disait-il à la petite Soledad, qui rassemblait les siennes, de lait, dans une boîte bleue.
Sol Elia, c'est un dernier extrait de votre texte « Tête de tambour » sur la musique de Sonic Youth et la voix de Romain de Bec de Lièvre, pour dire aussi que c'est un texte sur la destruction et sur une mort qui arrive. Tout à l'heure, vous disiez « on devient fou pour prévenir ou être prévenu de la folie des autres ou se prévenir de la folie des autres ». Et on sent aussi que cet homme meurt parce que presque c'est ce qu'on attend, quoi. Comme s'il n'y avait pas d'autre choix. Et on sent que c'est une mort que regarde la petite Soledad avec ses dents de lait pendant qu'il s'arrache les dents de coca. Est-ce que vous avez l'impression que ce texte-là vous a permis de regarder cette météorite ou cette existence de météorite avec un œil nouveau ?
Oui, et ça rejoint ce dont on a parlé un petit peu avant. C'est-à-dire que ça m'a permis... de donner à ce chaos, à l'histoire de ce ravage, parce qu'effectivement, c'est un homme qui s'est détruit et s'est vu se détruire. Et ça, c'est effectivement ce que le texte écrit et décrit aussi, qui est effectivement l'histoire de cette déflagration par la cigarette, par l'alcool... par les psychotropes, par les internements successifs, jusqu'à la mort, qui est aussi racontée dans le livre. Et quelque part, c'était donner une forme au chaos. Voilà, c'était le rendre regardable. Et le rendre regardable...
Y compris pour vous.
Y compris pour moi, bien sûr. Le rendre représentable. Donc regardable en face.
Tête de tambour, c'est publié aux éditions Rivage. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Elias. À la prise de son ce soir, c'était Morgane Danan. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Un grand merci à Valentin Rémy, Romain de Bec de Lièvre, Marianne Chassor et Jeanne Aléos qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les soirs. Dans un instant, le journal sur France Culture. Et puis quand vous voulez, à la page Par les temps qui courent sur franceculture.fr, des informations, des liens, des références d'archives, de musique et du podcast. À demain.